Donc je vous rappelle que nous sommes dans ce premier exposé sur le cœur de notre Seigneur. Je vous ai parlé ce matin de comment connaître le cœur de notre Seigneur en le regardant vivre dans les évangiles. Et puis après on l'a vu en regardant son cœur transpercé sur la croix. Voyons maintenant ce que dit Jésus de son cœur. Donc là, on va le voir dans les évangiles, puis après à Sainte Marguerite Marie. Dans les évangiles, notre Seigneur n'est pas très bavard sur son cœur. C'est normal, c'est un homme. Un homme n'est jamais bavard. Il a une certaine pudeur sur ses sentiments. Je sais, ça fait criser certaines épouses. Tu ne me dis jamais que je t'aime, mais enfin, je te l'ai dit le premier jour, je ne vais pas te répéter tous les jours. Donc, notre Seigneur est pudique. Mais il a dit quand même une chose qu'il faut bien retenir. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est quand même assez fort quand on a vu sa personnalité ce matin. C'était un homme viril par excellence. Viril, c'est pas bourrin. C'est une nuance. Donc... Viril, c'est une certaine force intérieure qui est justement doublée d'une douceur. La douceur, on l'a soit parce que c'est notre tempérament, on n'y est pour rien, soit c'est la fine fleur de la force. Et ça, c'est très impressionnant. Un homme qui est doux, mais par maîtrise. Saint François de Sales, par excellence. Donc, Saint François de Sales était du feu sous neige. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, c'était doux, calme, paisible, agréable. La neige, c'est cela. Mais en dessous, il y avait du feu. Et notre Seigneur, c'est exactement cela. Je pense que si on pouvait croiser le regard de notre Seigneur, on le fera un jour. Parce que n'oubliez pas qu'il est monté avec son corps comme il est ressuscité. Donc, on le verra. Avec son regard humain aussi, on verra à la fois cette douceur et cette virilité. Alors, nous qui sommes des disciples de notre Seigneur, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes doux et humble de cœur dans votre couple? Est-ce que vous acceptez de vous soumettre, quelque part, à la volonté de Dieu, qui s'incarne par la volonté de votre conjoint? Ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Je suis d'accord, Saint Paul l'a dit, qu'il fait que ce soit les femmes qui soient soumises. Ça fait criser les féministes, évidemment, cet épître. Mais c'est pas pour rien. Mais en tout cas, ça vaut quand même des deux côtés. Cette soumission n'est pas une soumission d'esclave, mais une soumission d'amour. Quand on aime quelqu'un, on aime faire sa volonté. C'est un des signes de l'amour. Et ça crée justement une douceur dans les rapports. L'humilité aussi, elle s'oppose, l'humilité, à l'orgueil. Et l'orgueil rejaillit très vite dans les couples. C'est pour ça qu'il faut vraiment une vie intérieure. Une vie où on va contempler notre Seigneur. Et on va se dire, allez, arrête, enlève tes grandes boxes, dépose tes grandes boxes et accepte, justement, de travailler ton orgueil, l'humilité. Mais l'humilité n'exclut pas la force, comme on l'a vu ce matin chez notre Seigneur et chez vous. Un homme doit rester un homme. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'homme et de cette là, il n'y a plus de femme. On pourrait dire l'inverse. Il faut que chacun garde sa place. Une femme qui veut tout dominer dans son couple, et c'est une tentation, eh bien elle est malheureuse. Parce qu'elle me dit, ben voilà, j'ai 5 enfants et un grand nounours. Grand nounours, ben c'est mon mari. Ben au début il résistait, il était, voilà... Puis bon, maintenant il a compris qu'il a tout intérêt à tout lâcher, quoi. On appelle ça la paix des ménages. Mais c'est la guerre dans les ménages, précisément. Donc, voilà, il faut rester humble. Donc voilà, une chose voilà, que vous pourrez retravailler entre vous, la question de la douceur et de l'humilité. Notre Seigneur aussi a parlé de son cœur à Sainte Marguerite Marie. Il a dit que c'était un cœur qu'il avait passionné d'amour. Tellement passionné qu'il ne pouvait plus se retenir de se répandre. Voici ce qu'il dit. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. » Et je pense que c'est ça une des qualités aussi qu'il faut avoir. C'est un amour, un cœur qui n'arrive pas à se contenir. On doit déborder d'amour. Et ça, ça se voit. Ça se trahit, si je peux dire, dans notre façon d'être. Éric Tabali, que vous connaissez, disait, c'est un grand navigateur qui traversait les mers, et juste avant de partir, pour la dernière fois, parce qu'on ne l'a jamais retrouvé, il disait, dans une interview, que c'est triste, une vie sans passion. Il faut être passionné. C'est important. Ne soyons pas des gens mornes. Si nous voulons rayonner sur la chrétienté, si nous voulons être des fils de notre Seigneur, continuer à sauver les âmes, il faut être passionné. Il faut avoir un cœur passionné. Pour Dieu et pour le salut des âmes. Et le cœur de notre Seigneur, précisément, était passionné jusqu'au point qu'il a donné donc sa vie lors de sa passion. Sa passion est la preuve par excellence de son amour fou, à l'extrême. C'est pourquoi, dans les apparitions à Sainte Marguerite Marie, eh bien, il parle souvent de sa passion. Et il se plaint en particulier du peu de retour. Il dit ceci. Ce fut alors qu'il me dit... plutôt Sainte Marguerite Marie qui parle, « Ce fut alors qu'il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes, dont il ne recevait que des ingratitudes et méconnaissances, ce qui m'est beaucoup plus sensible, dit-il, que tout ce que j'ai souffert pendant ma passion. » Il y a quelques temps, nous avons reçu au monastère une fille qui s'appelle Nathalie Saracco. Je ne sais pas si vous connaissez cette fille d'origine italienne, qui est connue notamment parce qu'elle a produit un film qui n'est absolument pas à voir pour les catholiques, qui s'appelle « La menthe religieuse ». Ceci dit, cette fille-là a un côté absolument extraordinaire. Et elle nous a expliqué comment elle s'est convertie. Elle était déjà catholique et elle travaillait dans le cinéma et venait d'obtenir un long métrage. Un long métrage, c'est le grand succès pour un cinéaste. Et voulait fêter ça avec tous ses amis en Normandie. Elle était en voiture sur l'autoroute avec une amie à elle qui s'appelle Lucie. Et Lucie, elle n'était pas croyante. Et ils étaient à 130 et elle était précisément en train de lui expliquer que elle n'était pas certaine que, qu'il n'y avait rien après donc, la vie, et que peut-être que, justement, ils allaient mourir, que la mort pouvait arriver n'importe quand. Et à ce moment-là, elle était sur l'autoroute, et elle était à côté d'un camion, en train d'oublier un camion, et une voiture de l'autre côté est arrivée, a percuté le camion, et s'est mise en travers à 130 à l'heure, hein, et a percuté donc la voiture de Nathalie Saracco, sur le côté comme ça à 130 à l'heure. Vous imaginez un petit peu le résultat. Donc tonneau, elle s'est retrouvée complètement encastrée dans les barrières de sécurité. Et là, elles étaient vivantes tous les deux, toutes les deux. Et son amie Lucie lui dit, dis donc, au fait, c'est quoi tes prières? Donc, comme quoi certains événements peuvent faire réfléchir assez vite. Lucie n'avait rien, mais Nathalie, elle, crachait du sang. Son père était médecin et l'appelle, et donc elle appelle son père et dit, voilà, papa, je viens d'avoir un accident grave, je crache du sang, qu'est-ce que t'en penses? Je crois que t'as les poumons perforés. T'as 2 heures pour t'en sortir. Après, c'est trop tard. Sur l'autoroute, cet accident a tout bloqué. Les pompiers ont mis plus d'une heure à arriver. Quand ils sont arrivés, Nathalie était déjà dans un état très très limite. Donc les pompiers sont arrivés avec les disqueuses et donc pour essayer de libérer donc ces deux filles-là. Et même Nathalie commençait à sentir le froid qui montait par les pieds. Et puis à un moment donné, paf, elle est partie. Et là, je vais vous dire ce qui est arrivé. Elle le raconte dans un livre qui s'appelle « Pour ses beaux yeux ». Donc, sur la couverture, on voit une photo de Nathalie Sarraco qui a de fait de très beaux yeux. Donc, on dit que c'est pour ses beaux yeux. Non, pas du tout, c'était les beaux yeux de Jésus. Et voici comment elle a rencontré Jésus, précisément. « Je ne sais pas si j'ai perdu connaissance ou si de battre mon cœur s'est arrêté. Mais ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé face à face avec ton sacré cœur, Jésus. Et là, le choc. » Non pas de te voir, je m'y attendais, mais de te voir dans un tel état. Toi, mon sauveur, mon bien-aimé, souffrant le martyr et pleurant à chaudes larmes devant moi. Toi, en tunique blanche, me montrant ton sacré cœur, entouré d'une couronne d'épines, le visage défiguré par la souffrance. Pourquoi pleures-tu, Seigneur ? Lâcha mon cœur stupéfait. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris. Mes bien-aimés, j'ai donné ma vie pour vous. Je ne sais plus quoi faire pour vous, et vous me repoussez. Je pleure parce que mon cœur se consume d'un amour fou pour vous tous, qui que vous soyez. Et en échange, je ne reçois que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce qu'il n'a rien de pire que d'être méconnu et rejeté par ceux que l'on aime. Et après, Nathalie Sarraco lui dit « Quel dommage, Seigneur, de rendre là maintenant. J'aimerais pouvoir revenir sur terre pour témoigner de ton amour qui dépasse l'entendement, de ta souffrance à cause de nos péchés, de ta froideur, et pour te consoler. » Et de fait, notre Seigneur va lui donner cette grâce de revenir donc, sur la terre pour pouvoir témoigner. Chose surprenante, elle va être amenée aux urgences et on va faire des examens, notamment de ses poumons, et on va lui dire, mais mademoiselle, vous avez rien au poumon. Vous plaisantez ou quoi, là? J'ai craché du sang pour en finir, et j'ai rien. Non, ils sont intacts. Dans un certain nombre d'expériences de mort imminente, il y a des cas comme ça, justement, où les gens reviennent, et en même temps, il y a un miracle qui se fait, que la guérison de la personne. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est quand même... Ce qu'elle a vu là, c'est le Sacré-Cœur souffrant. Elle a eu exactement la même vision que Sainte Marguerite Marie a eue. Notre Seigneur, qui souffre de notre ingratitude, nous sommes profondément ingrats. Combien de temps passez-vous à penser à notre Seigneur? Combien de temps concrètement dans une journée? Si vous faites votre prière du matin, prière du soir, ça vous prend combien de temps? Allez, 5 minutes, 10 minutes, et plus fervent peut-être un quart d'heure. C'est pas énorme quand même. Et dans le pire des cas, c'est une minute. C'est quand même pas grand-chose. On comprend qu'il se plaint justement. Il se plaint en particulier des âmes consacrées qui passent pas assez de temps, je pense, à l'aimer, à le servir. Donc, ayons cet amour du Sacré-Cœur. J'en arrive maintenant à une autre partie dans cet exposé sur le Sacré-Cœur, toujours. Je vous ai dit comment connaître le Sacré-Cœur, ce que dit Jésus de son cœur, et maintenant, le Sacré-Cœur présent dans l'Eucharistie. Quand le Sacré-Cœur est apparu à Sainte Marguerite Marie, il lui a demandé d'instaurer une fête, la fête du Sacré-Cœur, qui va se situer dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement, pour montrer précisément que le Sacré-Cœur se trouve dans l'Eucharistie. Et c'est la question qu'on peut se poser. Mon père, vous me parlez du Sacré-Cœur, mais où peut-on rencontrer le Sacré-Cœur finalement ? Eh bien, il nous l'a dit, dans l'Eucharistie. C'est là où il se trouve. Et chose donc surprenante, c'est que, comme pour d'autres dogmes, eh bien, il va faire des miracles pour confirmer ses apparitions. On a vu ça déjà dans les apparitions de la Vierge. Vous connaissez le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Et à Lourdes, eh bien, en 1858, eh bien, quand le curé demande à la petite Bernadette, mais je voudrais connaître le nom de Aquero. Aquero, c'est cette chose en quelque sorte. Et bon, vous connaissez donc la réponse de la Vierge. Donc, je suis l'Immaculée Conception. Donc, elle vient confirmer par une apparition un dogme. Là, il y a une apparition qui se passe au XVIIe siècle où le Sacré-Cœur dit « Vous trouverez mon Sacré-Cœur dans l'Eucharistie ». Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez les miracles eucharistiques récents qui prouvent cela. Vous en avez un qui est très connu, c'est celui de Lanciano. Celui-là, tout le monde le connaît. Au VIIe siècle, en Italie, un moine basilien avait des doutes, volontaires ou involontaires, on ne sait pas, sur la présence réelle. Et après la consécration, tout d'un coup, l'hostie se transforme donc en morceau de chair, et donc le vin ou le sang se transforme en sang réel. Et donc il est consterné par cela, il est bouleversé, et donc on conserve donc comme des reliques. Et en 1970, 1971 et 1981, il va y avoir des investigations scientifiques. Et voici ce qu'on va découvrir. Que le sang est vraiment du sang humain et de la chair humaine. Et que la chair est véritablement un tissu du muscle cardiaque qu'on appelle myocarde. Que le type sanguin est identique dans la chair et dans le sang. C'est le type AB, le même que celui du Saint-Suaire. Et que le sang qui est réel est composé de 5 caillots inégaux. Mais chose très surprenante, c'est que les caillots ont des formes différentes, donc apparemment des poids différents. Eh bien non, tous les caillots pèsent 15,85 grammes séparément, ou quand on en met un d'un côté ou des autres, c'est le même poids. Donc ça veut dire que la présence réelle est totale. C'est-à-dire que une goutte de sang ou un litre de sang de notre Seigneur, c'est notre Seigneur qui est totalement présent. Ça, vous le savez. Mais là, on a une preuve. Alors ça, c'est voilà, un miracle que vous connaissez. Mais je ne sais pas si vous connaissez celui de Buenos Aires en 1996, ou celui de Sokolka en 2008, ou celui de Legnica en 2013. Buenos Aires est peut-être le plus impressionnant de par les études scientifiques les plus poussées. C'était en 96, le pape François était évêque à cette époque, auxiliaire, donc à Buenos Aires précisément. Le schéma, c'est le même pour tous les miracles eucharistiques, c'est-à-dire une hostie tombe pendant une messe et tombe à terre. Elle est souillée, c'est-à-dire que quelqu'un marche dessus, donc on ne peut pas la récupérer et la redonner. Donc, ils le mettent dans un vasque d'eau, de façon à ce que l'hostie puisse se dissoudre. C'est ce qu'on fait, par exemple, à la messe. Le prêtre a toujours les doigts qui sont condamnés, comme cela, et quand on a des particules, à la fin de la messe, vous voyez, il y a le lavabo, et donc les particules tombent et se désagrègent, et donc après, donc l'eau, on verse ça, par donc respect en terre directement ou dans une piscine liturgique. Et donc ils font ça, et chose surprenante, même bouleversante, l'hostie ne se désagrège pas, mais au contraire se transforme en morceaux de chair sanglant. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, au bout de 3 ans quand même, il va falloir faire analyser ça par la science. Donc ils vont envoyer donc, à des laboratoires, c'est une parcelle, sans dire d'où ça vient. Et voici donc ce que disent les spécialistes. La matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche près des valves. Le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Alors, à ce moment-là, on a révélé que, eh bien, cet échantillon venait non pas d'un cadavre, mais d'une hostie. Et alors, ils répondent cela, les scientifiques, « Vous devez m'expliquer une chose. Si cet échantillon provient d'une personne morte, comment se peut-il que pendant que je l'examinais, les cellules de l'échantillon étaient en mouvement et pulsaient ? Si ce cœur provient de quelqu'un qui est mort en 1996, comment peut-il être toujours en vie ?» Donc ce que je retiens là, c'est que les cellules donc, pulsaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était une opération à cœur ouvert. On a une hostie, on a un cœur qui est réellement vivant. Et c'est pour ça que là, il pose la question, mais vous dites que ça s'est passé en 96, il n'a pas trop compris, il a cru que c'était un être humain. Il ne peut pas être mort en 96, puisque le cœur est vivant. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. À Sokolka, en 2008, en Pologne, le 12 octobre, va se produire exactement la même chose. Simplement que là, ce n'est pas l'ensemble de l'hostie qui va se transformer dans un morceau de chair, mais c'est simplement une partie qui va être également examinée. Et voici ce qu'il dit par les scientifiques, toujours le même principe, on ne dit pas d'où ça vient, de façon à ne pas influencer donc, les scientifiques. Selon notre opinion, l'échantillon qui nous a été envoyé pour examen ressemble à un tissu de myocarde, du moins de tous les tissus organiques, c'est ce à quoi il ressemble le plus. Le cœur est vivant, mais à l'agonie, car on remarque qu'il y a de multiples lésions dans le tissu cardiaque, et ce sont les symptômes qui précèdent la mort. Il ne connaissait pas l'analyse qui avait été faite à Buenos Aires, évidemment, ce scientifique-là. Voilà, et un autre, encore plus récent, 2013, c'est pas vieux quand même, hein. Donc toujours en Pologne, même histoire, et donc là également, il découvre que c'est un morceau de myocarde qui est souffrant et qui est vivant. Donc là, on a une preuve, par ces miracles, de ce que le Sacré-Cœur avait dit à Sainte Marguerite Marie. Donc quand vous communiez, vous voyez, vous communiez bien au cœur de Jésus. Vous direz, on reçoit tout Jésus. Il n'y a pas que le cœur. Toute son humanité, sa divinité est là. Mais s'il a voulu précisément faire ces miracles-là, c'est pour nous montrer que son amour est là. Le cœur, c'est le symbole de l'amour. Et donc, qui nous aime infiniment, et qui veut nous donner son cœur, véritablement, au moment de la communion. Et ça, c'est capital. Parce qu'en retour, nous aussi, nous devons donner notre cœur. Et c'est ça qu'on doit lui donner à la communion. Durant l'action de grâce, « Mon Dieu, prenez mon cœur, je vous le donne ». entièrement. Vous donnez également, vous donnez votre cœur pour que je puisse le faire mien. Une histoire comme ça, c'est une histoire de missionnaire. C'est en Afrique. Une mission se passe très bien. Un missionnaire a un rayonnement absolument incroyable. Et un jour, il se passe une horreur. Le missionnaire a été tué et ils ont mangé son cœur. Alors là, c'est le choc. On les croyait civilisés, on les croyait chrétiens. Et donc on les interroge, mais pourquoi vous avez fait ça, quoi? Pourquoi vous avez tué votre missionnaire? Vous sembliez l'aimer. Mais oui, on l'aimait beaucoup. Mais pourquoi vous avez mangé son cœur? Mais parce qu'il était si bon qu'en mangeant son cœur, on va devenir aussi bon que lui. Eh oui, c'était pas si bête que ça. Un peu dangereux quand même. Mais ils avaient quand même compris quelque chose. Il faudrait peut-être que nous on le comprenne aussi. Quand on reçoit le cœur de Jésus dans l'Eucharistie, il faudrait que nos cœurs deviennent un peu meilleurs. C'est pour ça qu'on reçoit Jésus. C'est pour devenir meilleur et que notre cœur soit semblable au sien. J'en arrête là pour ma première conférence. J'en arrive à la deuxième, qui sera écourtée donc, parce que je tiendrai l'horaire, que M. l'abbé se rassure, je serai ponctuel. Deuxième conférence, l'amour dans le couple chrétien, enraciné dans le Christ. Le mariage, vous le savez, est un contrat naturel. C'est comme ça que l'a voulu le bon Dieu au départ, quand il a créé Adam et Ève. Il leur a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Genèse 1, verset 27 à 28. Et ailleurs, il dira « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. » Dieu a donc fondé le mariage au moment de la création. Et là, on voit déjà les deux propriétés du mariage apparaître. L'unité, ils feront qu'une seule chair, et l'indissolubilité du mariage. Mais le mariage n'est pas simplement un contrat naturel pour les chrétiens. Il est également ce qu'on appelle un sacrement. Certes, avant la venue du Christ, ce contrat naturel avait quand même un caractère religieux, c'est sûr. Mais ça restait simplement un contrat. Là, le Christ va élever le contrat à la dignité de sacrement. Il va donc donner une grâce toute spéciale pour vous aider à vous sanctifier. Il veut que le mariage soit un moyen de vous sanctifier. Un petit témoignage personnel, si je puis dire. Quand je me suis converti, grâce au MJCF, il est vrai que j'étais pas vraiment une grenouille de bénitier dans ma jeunesse. Mon père était croyant, mais pas trop, pratiquant quasiment pas. Ma mère était agnostique, donc ne savait pas si Dieu existait ou pas. Donc, le catéchisme, qu'est-ce que j'ai eu du coloriage? J'ai rien appris. Donc, ma passion, c'était la moto. J'ai eu 13 motos mobilettes. Donc, dans ma banlieue parisienne, j'étais donc pas très loin de chez vous, mais à l'opposé. Pour moi, Versailles, c'était vraiment l'opposé. Donc, à tout point de vue. Parce que ma tenue vestimentaire, pour un motard, vous voyez ce que c'est, quoi. Donc c'est blouson noir, tiag, ou ranjo, ou jean, donc voilà. Donc on était toute une bande de motards, et ma passion c'était ça. Et j'étais converti grâce à un mouvement, le mouvement de la jeunesse catholique de France. Ils m'ont récupéré mon premier camp d'hiver, on a quand même cassé dans le chalet dans lequel on était, trois portes, donc deux lits. On s'est frité avec les loupards d'à côté, un type qui sortait de tôle, ils avaient 25 ans, on en avait 15, donc on n'avait pas froid aux yeux. Donc, et donc voilà, donc ils nous ont gardés quand même, parce qu'ils se sont dit, l'énergie qu'ils ont à faire des bêtises, s'ils se convertissent, peut-être qu'ils la mettront ailleurs, pour faire le bien. Et donc, quand je me suis converti, moi, quand je voyais des garçons et des filles du CF qui commençaient... Voilà, à se regarder dans le blanc des yeux en quelque sorte, et à penser au mariage. Moi, ça ne me plaisait pas du tout. Moi, c'est, pour moi, je me disais non, le christianisme, c'est pas ça. Il faut un christianisme qui soit péché. Il faut quelque chose qui soit viril. Donc, moi, je ne sais pas que moi je voulais choisir, c'est mon Dieu qui m'a appelé, il m'a appelé dans l'oraison précisément. Moi, je voulais raconter comme ça, vous. Voilà. En fait, je faisais oraison parce qu'il m'a appris à faire oraison. Il m'a dit, voilà, tu prends l'imitation de Jésus-Christ et tu lis donc ça pendant un quart d'heure tous les jours. Bon, très bien. Donc, j'ai lu ça, et puis plus je disais l'imitation de Jésus-Christ, puis je me disais, mais c'est fantastique, quoi. C'est magnifique, quoi, ce qu'il y a dans ce livre-là. Ce bouquin, mais c'est fou, quoi. Et plus je lisais, plus j'étais pris, et puis le sens de la vie, c'était ça, dans ce livre. Et un jour, je retourne le bouquin, et je lis... Thomas Aquinas, moine, qui a écrit ce livre pour des moines. C'est bon, c'est réglé, je serai moine. Mais manque de bol, c'est qu'à 17 ans, dans les banlieues parisiennes, les moines, ça ne traîne pas les rues. Donc, ce qui fait que moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était donc, un monastère. Et mon père recevait le Figaro Magazine, et un jour, il était titré « Les maquisards du ciel ». Tiens, c'est quoi ça? Bizarre. Je feuillette, et là je tombe sur des types en noir, la tête complètement rasée, d'autres avec des couronnes de cheveux, dans un cadre provençal, un petit prieuré du Moyen-Âge, des ornements magnifiques, tous jeunes. Oh, pétard. Ce sont les moines. Oh, qu'est-ce que j'étais content. Et à ce moment-là, ma mère rentre dans ma chambre, qui était agnostique, hein. Et je brandis le Figaro Magazine et je dis « Maman, maman, plus tard, je serai là. » Alors là, ma mère, qui me regarde avec ce regard féminin, vous savez, ce regard qui vous pénètre jusqu'aux os, là. Et je dis comme ça, et elle me dit « Dis pas de bêtises. » Et malheureusement pour eux, pour mes parents, heureusement pour eux, bah, le bon Dieu a quand même continué à travailler mon âme. Et je suis rentré donc, au monastère. Entre-temps, elles sont converties. Je finis l'histoire parce que sinon, les gens, c'est trop triste. Et, ils se sont convertis, contrairement vraiment à mes espérances, parce que j'y croyais absolument pas. Ils ont été extrêmement durs. Mon père était très dur, vraiment, au début avec moi. Quand il a commencé à voir que je me convertissais, il ne comprenait pas. Ma mère me disait, il est fou. Mais ils sont convertis. À force de venir me voir au monastère, ils se sont dit, on ne comprend pas, mais il a l'air heureux. C'est trop bizarre, ça. Et donc, à chaque fois qu'ils pensaient à leur fils, ils pensaient au bon Dieu, forcément, parce que j'étais dans le monastère. Et à force de penser au bon Dieu, bah, ils sont convertis. Donc, la grâce est dans. Hein. Donc. Et pourquoi je vous raconte ça j'ai dérapé un petit peu, mais pour vous expliquer quand même une chose qui, là, va revenir dans le sujet. C'est qu'au début, justement... Pour moi, le mariage, c'était trop facile. Trop facile. Non, franchement, partir comme ça avec une fille... bon, je le concevais. J'ai pas un cœur de pierre. Mais quand même, quand on est chrétien, non, il faut quand même quelque chose de plus. Et donc, c'était ma mentalité quand je suis rentré au monastère. Et puis après, j'ai fait des études au monastère. Et j'ai étudié le sacrement de mariage. Et là, on m'a expliqué que dans le sacrement de mariage... En fait, ce qui constituait la matière et la forme du sacrement de mariage, c'était le don de soi. Le don de soi. Ah ouais, le don de soi. Mais ça, c'est péchu, ça. Le fait de se donner, mais ça, c'est... Ça a de l'allure, quoi. Comme le fait de rentrer au monastère ou comme le fait de rentrer dans... au séminaire, quoi. Et là, tout d'un coup, d'un seul, ça s'est éclairé. Et pour moi, le mariage est devenu vraiment une très belle vocation. Je vous rassure, je préfère encore être moi-même. Hein. Donc, je ne regrette pas du tout, même si j'ai été éclairé là-dessus. Mais pour moi, ça a rehaussé complètement et changé complètement ma vue du mariage. Et de fait, après, quand on est prêtre, on voit que c'est vraiment une école de sainteté, le mariage. Mais à une condition, c'est que vous remplissiez votre sacrement, qui consiste dans le don de soi. Alors, on va expliciter un petit peu quand même ce que c'est que le don de soi dans le mariage. Je vous ai dit que dans tout sacrement, il y a une matière et une forme. La matière éloignée, ce sont les personnes, les époux. Mais la matière prochaine, c'est le don mutuel de chacun à l'autre. Et la forme, c'est l'acceptation du don de l'autre. Et cela est signifié par, justement, les paroles du consentement. C'est comme un stylo. Si je donne un stylo à quelqu'un, « Madame, je vous donne mon stylo. » Vous voulez mon stylo? Vous voyez que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Moi, je vous le donne, mais de bon cœur, franchement. Hein. Donc, je vous donne mon stylo. Vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. D'accord. Si vous l'acceptez, vous êtes libre également de me donner votre stylo. D'accord. Et je suis libre de l'accepter ou de le refuser. Eh bien, c'est ça le mariage. C'est qu'on se donne à l'autre. Et l'autre est libre d'accepter ou pas. C'est le drame dans l'amour. Quand un garçon est amoureux d'une fille, par exemple, il veut se donner à cette fille-là. Et la fille dit, non, non, moi je ne suis pas d'accord. Et donc il remballe son silo. Oui. Et en face, il faut aussi que, voilà, elle se donne et que le garçon accepte le don. Vous voyez, c'est un don qui est mutuel. Et si il n'est que dans un seul sens, c'est le drame. Il faut être capable donc de se donner. Et je vous donne un exemple, c'était un garçon et une fille que je préparais au mariage. Et le garçon avait deux voitures, une 2 chevaux et une R5. Ah, une R5 à l'époque c'était voilà, une belle voiture, on dirait une C3 maintenant ou quelque chose comme ça quoi. Encore une C3, bah, remarquez que les dernières C3 sont pas mal quand même. Et donc, ils s'aimaient tellement que, instinctivement, ils étaient tellement donnés l'un à l'autre qu'ils pensaient tout le temps, donc qu'est-ce qui peut faire plaisir à l'autre. Et alors, pour le voyage de noces, il dit à sa fiancée, alors, qu'est-ce qu'on prend pour le voyage de noces? Elle avait une petite santé, donc la 2 chevaux, ça balançait pas mal... limite quand même. Donc elle préférait la 5, c'était plus confortable. Et lui donc, il pose la question, alors, qu'est-ce que tu veux? Alors elle dit, ben, la 2 chevaux. La 2 chevaux. Ben oui, la 2 chevaux, parce que quand même, pour un voyage de noces, c'est plus mythique, ça balance dans les virages, sympa, quoi, c'est, voilà. Ah non, 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 pour un voyage de noces, il faut quelque chose, une belle voiture, qui soit vraiment confortable, qui soit bien, quoi. Et non, il faut prendre la R5. Ah non, moi je préférais quand même. Ils se sont guirlandés pour la première fois. Pour la première fois, parce qu'ils étaient tellement habitués à se mettre à la place de l'autre qu'ils sont arrivés à se batailler comme ça. Ouais. Donc c'est quand même beau quand même d'en arriver là. Je sais pas si c'est votre cas. Essayez toujours. Donc, mais voilà, c'est un don mutuel, vous voyez. Un don mutuel. Et quand on arrive à cela, mais la vie est merveilleuse, quoi. Et le mariage, c'est un bonheur. Mais ça demande des arrachements. Et oui. C'est là le problème, c'est qu'il faut s'arracher à soi-même. Parce que dans l'amour humain, il y a des étapes. Et les étapes, elles sont très bien décrites par un philosophe qui s'appelle Gustave Thibon. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce que Dieu a uni. Donc, je vous recommande de lire donc, ce livre. C'est vraiment très intéressant. Il parle de la naissance de l'amour. Et donc, voici ce qu'il dit. L'amour naissant nous apparaît revêtu d'un âme absolu. Il promet tout. La présence, la simple image de l'être aimé sont vécues comme quelque chose d'inépuisablement nouveau, mystérieux et rassasiant. Une magie subite fait crouler en nous le vieil homme et nous remplit l'âme d'une ivresse bienheureuse. Une frêle créature apparue sur notre chemin. Et voici que tout est changé pour nous. Cette créature réside maintenant au centre de nous-mêmes, au centre du monde. Elle est inexprimablement unique. Elle est ce que jamais on verra deux fois. Par elle, notre monde intérieur se transfigure. Elle éveille au fond de nous-mêmes des virtualités inconnues. Il semble que nous recevions notre âme de ses mains. Cette source où je puise l'existence, s'écrit un personnage de Shakespeare. Et l'immense univers extérieur revêt aussi à travers elle un aspect vierge et suprême. Alors, je ne sais pas si vous êtes reconnus là. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore dans cette phase-là, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous. Mais en tout cas, dans les fiançailles, c'est un peu ça quand même. Donc, il y a l'impression de, tout d'un coup, que le monde s'illumine. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce qu'entre filles, elles se repèrent tout de suite. Toi, t'es amoureuse. Quoi ? Moi, pas du tout. Qu'est-ce que tu dis ? D'ailleurs, tu ne le connais pas. Donc, ça se voit tout de suite. La fille est transfigurée. L'homme... il est plus sympa, on va dire. Mais, dit-il, chose intéressante, c'est que cette flamme, qui est très belle, très chaude, ne purifie pas pour autant. Elle ne sanctifie pas pour autant. Elle donne des ailes, mais elle ne convertit pas en profondeur. Il y a quelque chose qui peut être très superficiel. Et justement, Saint-Exupéry disait « L'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais de regarder ensemble dans la même direction. » Donc, vous connaissez peut-être cette citation. Hein, qui est... Et ça montre bien justement que l'amour doit dépasser ce côté sensible qui est premier. Après arrive une crise. Je suis désolé, les choses se gâtent. Certains d'entre vous le savent déjà, pour être dedans ou peut-être avoir passé cette crise-là. Mais ce qui m'impressionne le plus parmi mes amis, qui donc sont mariés depuis un certain temps, c'est quasiment tous sont passés par une crise. C'est-à-dire quand on est jeune couple, on se dit non. Les autres, oui, mais nous, non. On s'aime trop, la preuve, hein, on s'aime bien. Hein. Donc tout va bien. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ça irait mal. Et oui, mais pourtant, il y a une purification qui se fait. Et ça va loin, hein. Ça va très loin jusqu'à tel point que, quelquefois, c'est carrément au point de se dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé ? Est-ce que je vais pouvoir tenir toute ma vie avec lui maintenant, que je l'ai vraiment découvert ? Je n'en peux plus. D'ailleurs, je ne l'aime plus. Je n'ai plus de sentiments. Je ne ressens plus rien. Il faut se méfier des sentiments. Les sentiments, ce n'est pas l'amour. On peut avoir beaucoup d'affectivité et peut-être pas beaucoup d'amour, et inversement. Ça m'arrive de poser une colle à des fiancés, eux, des filles. Je leur dis, pour qui avez-vous le plus d'amour ? Votre fiancé ou Dieu ? Allez, soyez franche, je ne lui dirai pas. On est entre nous, là, dans un parloir. Dites-moi franchement, pour qui avez-vous le plus d'amour ? Le plus d'affection, quoi ? Pour qui vous vibrez le plus ? Pour Dieu ou pour votre fiancé ? Alors là, la fille pique un phare, elle baisse les yeux. Et puis il dit, allez, dites-le. Bah oui, bah c'est pour lui, quoi. Parce que quand je le vois, moi, j'en peux plus, quoi. Alors quand je vais à l'oraison, c'est pas vraiment le cas, quoi. Très bien, ok. Maintenant, votre fiancé que vous aimez à la folie vous dit, écoute, Virginie, bon, on se marie, hein, mais après le mariage, tout ce qui est religieux, on balance. Hein. Parce que moi, j'ai subi ça durant toute mon enfance. Les parents, on va leur faire plaisir, mais après, on balance tout. Hein. On arrête, fini, terminé. Vous l'épousez, le garçon? Ah non, certainement pas. Pourquoi? Vous ne l'épousez pas? Attendez, il refuse le bon Dieu. Bah alors finalement, vous préférez le bon Dieu, votre fiancé? Ah bah oui. Ah bah ça alors. Ne confondez pas les sentiments et l'amour. On peut avoir beaucoup de sentiments et peu d'amour. Et quelquefois, plus de sentiments et beaucoup d'amour. Et dans le mariage, c'est ça, souvent, qui arrive. Les sentiments, bah, quelquefois, on ne sent plus grand-chose. Hein. Mais n'empêche, on est encore capable de donner sa vie pour son épouse ou pour son époux. Et qu'on l'aime vraiment, en acte. L'amour est dans la volonté, il n'est pas dans le sentiment. Retenez bien ça. L'amour est dans la volonté, non pas dans le sentiment. Donc si vous voulez aimer, vous aimez. Et quelque part, c'est simple. Alors la crise de l'amour, il y a trois solutions. Soit elle se solde par une mort pure et simple, c'est le divorce. Soit, entre catholiques, on essaie de sauver la face, notamment pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Des vies en parallèle. On avait déjà commencé un petit peu à faire ça. Bien sûr, on communiquait pour savoir qui allait chercher l'enfant à l'école ou où on allait partir en vacances. Et, mais finalement, on communiquait plus beaucoup. Et puis, on en arrive carrément à avoir un lit séparé. Ça arrive, hein, on connaît des cas. Et donc, on vit l'un à côté de l'autre, d'un commun accord. Il n'y a plus aucun rapport conjugal. Simplement, on vit pour l'intérêt. Et puis, on verra bien quand les enfants sont partis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on se sépare? Donc, ce sont deux vies égoïstes. Ou sinon, il reste une troisième possibilité, la transfiguration de l'amour. Et cette transfiguration, j'aimerais vous le donner, donc avec Gustave Thibon. Celui qui aime à travers la déception aime enfin l'objet pour lui-même. Une sorte de décentration se produit dans ses sentiments. À la boursouflure subjective du premier amour succède la perte de soi. L'amant apprend le réalisme de l'amour. Il se sent lié, vaincu par l'autre, envahi par une destinée étrangère. Il aime de plus loin que les sens, de plus loin que tout désir. Une nouvelle joie se lève en lui. La joie grave, silencieuse et incorruptible de se donner. Aussi aime-t-il maintenant la créature pour sa pauvreté. Plus elle est pauvre, plus il peut lui donner. Sa dilection est si chaste qu'il voudrait s'offrir tout entier à l'être aimé, sans même effleurer celui-ci d'une exigence en retour. On arrive à ce moment-là, ce qu'on appelait tout à l'heure, l'amour oblatif. L'amour de l'autre pour pouvoir le conduire au ciel. Et ça, c'est important. C'est pour ça que sans vie intérieure, vous ne pouvez pas avoir une vie transfigurée. Transfigurer votre amour. Et il faut aussi accepter le changement de l'autre. Et ça, c'est pas facile. Parce que tout d'abord, vous-même, vous allez changer. Vous ne serez plus le même. Vos défauts vont évoluer. Vos qualités aussi. Physiquement, vous allez changer aussi. Et donc, il faut accepter que l'autre change. Parce que sa personne, elle ne change pas. Vous avez épousé une personne qui est changeante peut-être, mais c'est une personne que vous avez épousée. Et ce qui va permettre cette transfiguration et de tenir, et bien précisément, c'est de revenir régulièrement à votre sacrement de mariage, le don de soi. Mais est arrivé de recevoir trois couples, pas en même temps, no gracias, qui sont venus me dire, mon père, voilà, on vient vous voir, parce que c'est fini entre nous. On a tout essayé. C'est l'horreur. On en vient même à se battre, vous imaginez. Donc, nous, c'est terminé. On veut se séparer d'une façon définitive. Alors, je leur ai dit, écoutez, vous venez me voir, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'y crois encore. Alors là, je me prends une volée de bois vert. Ah, on voit bien que vous êtes moine, hein, vous ne connaissez rien à l'amour humain, vous ne vous rendez pas compte de ce que l'on vit, mais c'est l'horreur, quoi. Donc, vous êtes dans votre monastère, bien tranquille, bien au chaud, là, dans le sud, avec les lézards et tout ça. Donc, et alors que nous, c'est insupportable. Vous ne pouvez pas comprendre ce que l'on vit, c'est l'enfer. Je suis d'accord, il n'y a plus d'espoir. C'est ça ? Ben oui, il n'y a plus d'espoir, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. Mais il y a encore l'espérance. Il y a encore l'espérance. Et l'espérance, c'est la grâce. Vous avez oublié le sacrement. Vous avez oublié qu'un jour, vous avez reçu une grâce. La grâce du sacrement, ce n'est pas un cadeau, parmi nos autres cadeaux qu'on reçoit pour le mariage, hein, un cadeau surnaturel du bon Dieu. Finalement, c'est normal que lui aussi nous fasse un cadeau. Tout le monde nous fait des cadeaux pour le mariage. Donc, il fait un cadeau, et donc on aurait mis dans le placard, en quelque sorte, et qu'on aurait oublié. C'est pas ça, la grâce sacramentelle. Ça n'a le rosoir, la grâce sacramentelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-dessus de vous, et qui vous arrose en permanence de grâce, qui vous suit comme un GPS. Voilà, partout où vous allez, il est au-dessus de vous, et donc vous avez des grâces. Et donc, je leur disais, voilà, je crois encore à votre mariage de par la grâce. Mais le problème qui se pose, c'est que vous arrivez avec une voiture complètement déglinguée. Regardez votre voiture, vous avez deux pneus crevés, vous avez du sable dans le carbu, vous avez un phare qui est éclaté, les vitres qui sont explosées, et venir, elle ne marche plus ma bagnole, ma voiture. Donc, je m'attendais, mais... Vous n'avez pas fait de réparation ? Depuis combien de temps vous avez vu un prêtre ? Là, vous venez en catastrophe, après avoir tout vu les psys, les conseillers conjugaux, tout ça, et vous venez faire constater, finalement, que bah, voilà, votre mariage, il est fini. Mais il y avait peut-être, justement, des récollections à faire avec l'Immaculée. Bah oui ! C'est pour ça que c'est important, les récollections, et qu'il faudra vraiment, vraiment remercier M. l'abbé Leroux, qui est là-bas. Parce que c'est essentiel que faire de temps en temps des révisions. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces trois couples-là ? Ben, on a envoyé la voiture au garage. Donc, c'est-à-dire que régulièrement, ils venaient me voir et on remettait en place, tout d'abord, une bonne confession. Hein, ça ne fait pas de mal. Vous allez reprendre aussi les rapports conjugaux. Quoi, les rapports conjugaux ? C'est vous qui nous en parlez ? Ben oui, c'est des choses importantes aussi dans le mariage, les rapports conjugaux. C'est essentiel aussi pour l'union des âmes. Donc, il y a plein de choses qu'il faut remettre en place. La prière, des lectures spirituelles. Et quand on remet ça en place, eh bien, ça redémarre. Et les trois couples sont actuellement en bonne santé. Alors, bon, de temps en temps, on fait un peu les pneus. Hein, ils bougent un petit peu des boulons. Parce que, ça bouge un peu, hein, quand même, hein, de temps en temps. Hein, on est d'accord. Mais ça roule. Ça roule. Donc, et donc, voilà, il ne faut pas oublier la grâce de votre sacrement. Il faudrait peut-être que vous puissiez même, de temps en temps, vous redire précisément que vous vous aimez vraiment, en profondeur, et que vous rechoisissez. Nous, on fait bien ça, les moines, on renouvelle notre profession tous les ans. On redit au bon Dieu qu'on veut lui être fidèle, qu'on veut lui être son serviteur, qu'on lui donne tout notre cœur, qu'on veut lui obéir, qu'on veut être pauvre, qu'on veut être chaste. Et ça, c'est important. de redire les choses essentielles, eh bien, ce serait bien peut-être, vous voyez, qu'un jour, que vous puissiez vous dire, je te rechoisis comme épouse. Et si c'est à refaire, je recommencerai avec toi. Et oui. Et ça, je peux vous dire que ça booste. Ça fait redémarrer un couple. Donc, non pas dire, bah, si j'avais su, bon, j'aurais réfléchi un peu plus. Bon, maintenant que t'es là, si tu veux, pff, on a la grâce, il me l'a dit, donc bon, on va essayer d'arriver au ciel quand même. Hein. Donc, non, il faut reprendre les choses par le fond. Voilà. Je crois qu'il est l'heure. 5 minutes ? Oh, extraordinaire. Alors, ce don de soi, il existe dans le mariage, mais il existe en fait dans toute vocation chrétienne. Un séminariste, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est se donner soi-même pour la gloire de Dieu, le salut des âmes? Un moine, c'est pareil, il se donne totalement à Dieu. Mais en fait, c'est pas nous qui avons eu cette idée, c'est Dieu qui l'a eu depuis le début. Je ne sais pas si vous connaissez le père Joseph-Marie Verlinde. C'est un charismatique. Donc il faut savoir prendre ce qu'il y a de bon partout où ça se trouve. Moi je suis pour saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, son principe, c'était de prendre tout ce qu'il y avait de vrai partout. Il en a pris plein à la tête parce qu'il a pris Aristote alors qu'avant c'était Platon. Alors il disait, mais attention, dans Aristote, je trouve ce qui n'est pas bon. Je sais, c'est pour ça que je ne prends pas ce qui n'est pas bon. Mais permettez que je puisse prendre ce qui est bon. Donc, ce qui est bon chez les autres, on a le droit de le prendre. Et on a le droit de dire aussi que ce qui n'est pas bon chez nous, on peut laisser tomber. Donc. Et donc, ce père Joseph-Marie Verlinde, donc avant de se convertir, il avait tout abandonné. Et il était un scientifique, travaillait dans la CNRS, mais il trouvait ça très bien, parce que c'était très scientifique. Mais il trouvait ça un peu desséchant. Et un jour, il voyait une affiche, viens faire du yoga, tu verras, ça transformera ta vie. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas, une petite expérience orientale, ça peut être sympa avec la science, ça peut changer un peu, quoi. Donc il fait un peu de yoga, un peu beaucoup, et il se met en contact avec un gourou, et qui l'emmène dans les Himalayas, dans les ashrams. Les ashrams, c'est les monastères bouddhistes, pour faire donc des méditations transcendantales. C'est très efficace, puisqu'il avait des siddhis, c'est-à-dire des pouvoirs, et notamment celui de lévitation. Donc il explique, en fait, c'est très simple, hein. Bon, j'ai pas essayé, mais ça consiste à canaliser l'énergie vers le sol, de façon à pouvoir s'élever. Il dit, au début, ça fait un peu mal au conquis, parce qu'on n'y arrive pas à chaque fois, donc on retombe. Mais après, on y arrive très bien. Et donc, il trouvait ça absolument extraordinaire. Il passait donc 3 jours en méditation où il faisait monter la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie fondamentale qui se trouve au niveau du coccyx, qu'il faut faire remonter tout le long de la colonne vertébrale. Mais il y a des chakras. Les chakras, c'est les nœuds énergétiques qu'il faut savoir passer. Vous voyez, je suis assez initié. Hein. Le problème, c'est que ça s'est bloqué à un moment sur un chakra, mais c'est pas grave. Donc, et ceux qui arrivent, non, je plaisante, j'ai jamais fait ça. Hein, donc, et donc, on arrive donc au moksha, au samadhi. Donc, c'est en fait la fusion avec le tout divin. Et donc, on se perd donc dans le tout divin et notre personnalité. Donc, voilà, et dans cet état-là, tout à fait unique, où on ne ressent plus rien, puisqu'on est fondu avec l'univers qui est divin. Et donc, il est arrivé à ces états-là, et là, il s'est rendu compte qu'en fait, il s'était trompé. Pourquoi ? Parce qu'il était seul. Complètement seul. Et que l'amour, ça n'existe qu'à deux. S'il n'y a pas une autre personne en face, il n'y a pas d'amour. Et là, il s'est dit, je me suis planté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est tombé dans tout ça, il est revenu en France. Il a pris le christianisme. Il a dit, ah, là c'est bien, parce qu'il y a un Dieu, et c'est une relation qui est personnelle. Et ça, c'est fondamental pour nous, de comprendre que notre religion est une religion personnelle avec Dieu. Ce n'est pas du formalisme, c'est un cœur à cœur. Et c'est ce qu'il a découvert. Et donc il a découvert qu'il fallait se donner. Aimer, c'est se donner à l'autre. Donc Dieu s'est donné, et un chartreux le dit très bien, se donner, voilà le secret de ne pas mourir. C'est l'Éternel qui nous l'a livré, ce secret. Il le connaît, il le pratique à jamais, c'est sa vie divine. Si on pouvait expliquer le mystère des trois personnes en Dieu, ce serait là l'explication. Le Père donne son être infini et il engendre son Fils infini comme lui-même. Le Fils, égal à son Père, fait ce que fait le Père. Il se donne tout entier comme le Père se donne tout entier. C'est là leur esprit commun, le Saint-Esprit. C'est leur mutuel amour. C'est leur don réciproque. Le don qui les unit, qui les plonge l'un dans l'autre et qui fait qu'ils ne sont plus qu'un seul et même Dieu. Et c'est le don de lui-même qui peut réaliser en nous la joie. Nous n'aurons jamais la joie si nous sommes égoïstes. Nous serons heureux que dans la mesure où nous ressemblons à Dieu, qui est un être profondément heureux parce qu'il se donne. Et c'est ce que je souhaite donc à chacun d'entre vous.